pour une poignée de gamers, le podcast.
Salut à tous, c'est Duke et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu PPG de la semaine 12 de la saison 6. Nous enregistrons ce soir un 19 mars et avec moi, j'ai mon fameux Rolling. Salut Rolling.
Madame, monsieur, bonsoir. Attachez vos ceintures, le vol PPG à destination des Actus va décoller. Quelques turbulences sont à prévoir, les sacs à vomi sont à votre droite et l'oxygène n'est pas présent.
Oui, voilà, je rigole un peu parce qu'on l'a fait déjà cette blague, hein. C'est là on a fait deux lancements puisque mon copilote Rolling avait oublié d'appuyer sur le bouton record. C'est pour ça que ça me fait rire. Il a quand même refait la blague. Voilà, et j'ai avec moi en navigateur, on a aussi Tarant. Salut Tarant, tu vas bien ?
Bonsoir tout le monde, bah, ça va super bien. Écoute, et effectivement, quelques turbulences. Attachez bien votre ceinture surtout, soyez vigilants. Je m'attendais pas non plus à ce qu'on refasse la blague, mais c'est pas si mal.
Allez, ça marche. Voilà, et comme je disais aussi dans ma petite blague d'intro tout à l'heure, que je refais, notre Gab a peur de l'avion, donc il est pas venu ce soir. Et on l'embrasse très très fort, on lui fait des gros bisous. On a deux auditeurs avec nous ce soir. On a qui nous écoute? On a Mister Bordeaux. On
avait, et Craig.
Et Craig, c'est un copain à nous, je vous expliquerai. C'est notre enregistreur. Ce soir, les grosses actus. Alors, on va parler des Pégases, on va parler du Mario Day, on va parler malheureusement d'un célèbre mangaka qui nous a quittés. Tout le monde en a parlé dans les médias, même les médias, on va dire, généralistes, puisque c'est le décès de Akira Toriyama. Bon, c'est pas récent, c'est arrivé le 1er mars, mais on voulait quand même vous en parler. On ne s'était pas revu en actu depuis, donc voilà. On fallait forcément qu'on en parle. De ce grand artiste qui nous a quittés et qui a beaucoup influencé le monde du manga, du dessin animé et du jeu vidéo. Le coin des rumeurs, on va parler peut-être d'une PS5 Pro, on va parler un peu plus en détail de tout cela. Sujet des auditeurs, c'est pour ça que Tarant, tu nous as aussi un peu rejoint parce que tu voulais en parler avec nous, de Steam et le partage de comptes. Alors là, messieurs, je ne pourrais pas vous aider parce que je n'y connais absolument rien. On ira ensuite avec l'actu en vrac. Comme d'habitude, on parlera du sel, on a plein de choses à vous détailler. Et enfin, on terminera par le journal des sorties des chroniqueurs. Et on a un mois de mars qui se termine plutôt bien. Mais sachez, chers auditeurs, chères auditrices, que vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire, des petites étoiles. Ça fait toujours très, très plaisir. Et bien sûr, on a un Discord avec le lien dans la description de podcast. Venez nous rejoindre, ça nous fera... bon, voilà, on pourra discuter ensemble. C'est toujours sympa. On y va, c'est la grosse actu, c'est tout de suite, ça maintenant.
C'est parti.
Pour une poignée de gamers, le podcast.
La grosse actu, Rolling, tu voulais commencer par les Pégases, nos fameux récompenses du jeu vidéo à la française.
Yeah, pour ceux qui ne savent pas, les Pégases, c'est un peu l'équivalent des Césars. Quand les Oscars vont être les Game Awards, les Césars vont être les Pégases. Et ça récompense, oui, les meilleurs jeux français sortis dans l'année. C'était la 5e édition. Pour rappel, rapidement, pour vous dire un peu les gagnants des années précédentes, c'est quand même d'assez bonne qualité. En 2020, on avait A Plague Tale, Innocence et Dead Cells. En 2021, c'était le fameux Microsoft Fly Simulator et Street of Rage. Alors, entre autres, hein, je cite ceux qui ont été le plus récompensés. En 2022, c'est Deathloop et Road 96. En 2023, donc il y a un an, c'était le petit chat de Stray qu'on a vu partout. A Plague Tale et Requiem, ce coup-ci, le jeu Sifu de chez Slowclap et le jeu Steel Rising de chez Spiders. Et nous voici à l'année 2024. Moi, ce qui me fait plaisir dès le début, c'est le titre de l'excellence visuelle qui a été attribué à monsieur...
Ah oui, je sais.
Vas-y, je te laisse y aller.
Non, je ne peux pas vous mentir, hein, je n'ai pas regardé la cérémonie. J'ai juste vu sur les réseaux, parce que je suis abonné sur Twitter... X, comme on dit, au studio 1, je ne sais quoi, et je crois que c'est Dordogne, si je ne me trompe pas.
Oui, le jeu de Cédric Babouche, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais.
Ah oui, Dordogne, mais excellence visuelle, bah, amplement mérité. Hein. Le jeu est plein de tableaux faits à l'aquarelle, enfin, c'est magnifique, une petite histoire de fond super touchante. Il a sa place, il a mérité son Pégase.
C'est clair, c'est pas le genre de jeu qui va typiquement vous montrer des graphismes 4K, HDX ou peu importe. C'est plutôt une DA extrêmement bien faite, cohérente avec son univers et vraiment très très belle.
Exactement, et tu vois, c'est le genre de DA qui vieillisse bien. Tu peux rejouer dans 5, 10, 15 ans. Je pense que ce sera encore
mieux. Là, c'est clairement, c'est des choses qui vont pas chercher dans le technique, mais plutôt dans l'artistique. Et effectivement, c'est des choses qui visent très bien, ouais. Complètement. Alors, nous fais pas plus. Nous fais pas patienter autant comme ça. Alors, on n'en peut plus. On veut savoir qui a gagné le Pégase du meilleur jeu, parce qu'on va pas y passer non plus toute la soirée sur ce Pégase. Rolling 2024.
Ah, il n'y a pas de GOTY, il n'y a pas de meilleur jeu, il n'y a pas de caractéristiques. Il y aura les meilleurs jeux étudiants, meilleurs jeux narratifs, meilleurs jeux mobiles, meilleurs jeux indépendants. Alors
qui est en partie le plus de Pégase?
Alors, le plus de Pégase, c'était étonnant, c'est un jeu de chez Ubisoft que je n'ai pas vu passer. C'est Soldat Inconnu, Frère d'Armes,
qui a gagné. Il y a quelques années, celui-là?
Il a dû ressortir. Hein,
c'est pas tout jeune. En fait, il est ressorti récemment sur PC et mobile, je crois.
C'est ça, parce qu'il a eu meilleur jeu mobile, meilleur jeu au-delà du jeu vidéo et meilleure excellence narrative.
Oula, effectivement, c'est pas tout jeune, quand même.
Non, pas trop. Non, j'étais très honnête de le revoir ici.
Un excellent jeu, hein, que j'ai longtemps évoqué. On a parlé plein de fois de ce magnifique jeu. Mais bon, pour 2024, ça fait bizarre. Alors, de le voir.
Ce qui est étonnant, c'est un jeu qui ressort sur une autre plateforme peut être dans le meilleur jeu de l'année. C'est assez étrange. On adapte un jeu 10 ans après. Enfin, je sais pas si je dis 10 ans, je sais pas combien de temps c'est sur ce jeu-là. Mais...
Bon, ça doit pas être loin de ça, ouais.
Et tu as des jeux en face. Il était en face Assassin's Creed Mirage, il était en face The Wreck, Chant of Senar, qui était sorti.
Tant qu'on parle d'Assassin's Creed Mirage, j'en profite, j'ai l'actu sous les yeux. Il a quand même reçu un titre assez honorifique, ça a été le prix du public, hein, Assassin's Creed Mirage, lors de cette cérémonie.
Ah, donc c'est quand même bien. Bah, il est bien, il a été bien reconnu, ce jeu.
Tout à fait.
Oui, il était pas trop mal, ouais, effectivement.
Et puis après, on va pas tous les faire, mais...
Oui, non, deux... franchement, non.
Non, juste, voilà, la dernière catégorie, je pense, sur laquelle on pourrait s'arrêter, si vous êtes d'accord, ce serait le meilleur jeu vidéo. Chance of Senar, alors je connais pas du tout personnellement.
Ah oui,
a été désigné comme le meilleur jeu de la cérémonie.
Tu m'as dit tout à l'heure en Rolling qu'il n'y avait pas de GOTY, il y a bien alors.
Elle est sous une pub, je l'avais pas vue. Elle est cachée sur mon adblock là.
Oh, quel artiste.
Le mec il est calé, hein, t'as vu.
Heureusement que je suis derrière toi, quoi.
Merci, Caron. Sense of Senar, c'est quoi ce truc? Je n'aime pas trop parler.
Je connais pas du tout.
Alors c'est un jeu, alors je l'ai pas fait, hein, mais ça m'intrigue beaucoup. Comment dire? Le but du jeu, c'est d'écrire des langues. En fait, on va parler avec des gens. Des fois, on aura plein de petits hiéroglyphes qui sont des mots qu'on peut pas comprendre. Et au fur et à mesure du jeu, il va falloir apprendre à comprendre des langues pour avancer dans le jeu. Alors, je suis d'accord avec vous, ça fait pas rêver, ce jeu d'apprendre une langue, de décrypter des mots. Mais apparemment, ça marche très 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 bien. Beaucoup de monde en parle. Et là, il a eu le meilleur jeu indépendant et meilleur game design, parce que c'est vrai qu'il est assez joli. Donc Chant of Senar, alors je l'ai peut-être très mal décrit, hein, je suis désolé, moi c'est ce que j'ai compris du jeu, et c'est vrai qu'il a eu des bonnes notes et des bonnes réceptions par les joueurs et la presse. Chant of Senar.
D'accord.
Ok, c'est particulier. J'imagine mal le gameplay que tu peux avoir là-dessus. Mais...
Moi aussi.
Et bon, après, c'est vrai qu'il récompense souvent des jeux indépendants. Hein. C'est un petit peu le. Voilà,
bah oui, c'est très indé. Ouais, c'est des jeux français, hein, de toute façon.
Oui, parce que. À côté, si tu compares en termes de AAA, par exemple, t'avais des jeux comme The Crew Motorfest ou Assassin's Creed. Beaucoup d'Ubisoft, hein, du coup, globalement. Mais...
Ah, bah oui, en France, beaucoup d'Ubisoft, ça c'est clair. The Crew Motorfest, hein, qui a gagné le meilleur service d'exploitation. Je sais pas ce que ça veut dire.
J'imagine en termes d'interface utilisateur. Pour jouer en ligne, je sais pas.
Bon. Ok, voilà pour ces Pégases cette année. Bon, j'ai pas vu. Tu l'as regardé toi la cérémonie ou t'as juste regardé les résultats?
Non, j'ai vu les résultats. Ouais. Juste dernière chose. Un autre jeu que je ne vois pas. Enfin, faut vraiment essayer. Il a gagné la meilleure excellence sonore. C'est le jeu Jusant. Alors là, c'est un jeu d'escalade. Pareil. Hein,
oui, Jusant. Ouais.
Il est dans le Game Pass.
Oui. Ouais, il est pas trop mal. Je sais que notre Scal, notre tenancier du salon, il a beaucoup aimé ce jeu. Il a eu des bonnes critiques. Voilà, des bonnes critiques. Mais malheureusement, je crois qu'il y a eu des licenciements dans le studio. Hein. Voilà. Ils n'ont pas été satisfaits des ventes. Enfin, voilà, il y a eu des déménagements, malheureusement, pour eux. Et malgré cela, il n'a pas reçu un succès commercial, mais un succès critique plutôt très correct, je crois. Ouais.
Ah oui, complètement. Ouais.
Un jeu d'aventure, d'escalade, voilà, de un peu de...
Très joli.
Très joli, ouais. Ouais.
Mais c'est voilà, assez original. Pégase. C'est toujours Pégase, sympa voilà. De voir le jeu français. En plus, ça se passe à La Cigale. C'est dans un beau lieu. Tac. Ça fait 5 ans que ça tourne. Donc, ouais, c'est plutôt cool.
Ok, c'est cool. Merci, Rowling, pour ces Pégases. Moi, je voulais revenir rapidement aussi, parce qu'il n'y a pas eu de grandes nouvelles, mais quand même, il fallait l'évoquer. C'était le 10 mars dernier. Ils ont fait un petit jeu de mots avec Mars et le 10, le 10, le 1 du 10 se transformait en I et le 0 en O, ça faisait Mario. Le Mario Days.
Ils sont forts.
Pareil, ils sont forts, les mecs. On sent qu'il y a les graphistes hein, aussi. Ils sont pas tous chez Peach. Il y en a aussi chez Nintendo. Et donc, ils ont fait le Mario's Days. Voilà, c'est vers le 10 mars. Chaque année. Et donc, ils ont quelques nouvelles autour de Mario, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme news sur ce Mario's Days? Oh, on a appris que déjà il y allait avoir un, alors c'était pas vraiment une surprise, on s'y attendait un peu grâce au succès du premier film d'animation Mario avec Illumination, le studio qui a eu un énorme succès mondial. Eh bien voilà, ils sont sur une deuxième mouture qui sortira en avril 2026, voilà, un prochain film d'animation autour de l'univers de Mario, ça donc on l'a confirmé, c'est officiel, voilà, même s'il y avait des rumeurs, des on-dit, voilà, on se doutait bien qu'ils n'allaient pas rester sur ce succès sans suite. Moi j'ai bien aimé, perso.
J'ai bien aimé aussi, c'est très très bon film, agréablement.
C'était dynamique, sympa, il y avait de l'humour, des rêves partout, des références partout, voilà, ça plaît aux enfants comme aux adultes. Voilà, on ne sait pas dans quelle direction ils iront, mais sur le prochain. Mais
ceux qui l'ont vu, pas si vous avez fait gaffe, après les remerciements à la fin du film, il y a une petite scénette en plus. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette petite scénette.
Ah ben oui, bien sûr.
Oui.
C'est l'un des moments les plus drôles d'ailleurs.
On a vu un œuf qui craque et paf.
Et
Yoshi
voilà.
Qui arrive pour la suite. Donc on aura Yoshi.
On aura sans doute du Yoshi, oui, voilà.
Et un truc qui m'étonne, 2026, c'est une chose. Mais là, ils ont une date très précise. Ils parlent du 3 avril 2026.
Le 3 avril aux États-Unis.
Ils vont donner une année,
ailleurs,
un mois. Ce sera le 3 avril. Donc, c'est marqué dans mon calendrier. Le 3
avril
2026.
Parce que si tu veux mon avis, je pense qu'ils avaient déjà préparé la suite, globalement, en termes de scénario.
Oui, ils ont fait ça.
La preuve avec le. Avec. La petite scénette avec Yoshi à la fin du film. Pour moi, c'était déjà un peu dans les cartons. Ils attendaient juste de voir le succès du film.
Oui, tu veux dire qu'ils ont tourné
ils
en
pas de risque en même temps. Hein.
Ils attendaient juste de tourner, quoi, je pense.
Ouais,
ils avaient déjà écrit l'histoire.
Le nombre de Switch qu'ils ont vendu, ils savent déjà qu'il y a des clients potentiels de
oui,
Mario. Ils ne prenaient pas trop de risques. Donc voilà. Un nouveau film qui sortira le 3 avril 2026 aux États-Unis et sans doute dans la semaine qui suit ou plus tard en France et en Europe. Qu'est-ce que je voulais parler? Ah oui, on a eu deux dates officielles, ça y est. Alors, on en avait déjà entendu parler, ça y est, ça a été déjà présenté avant, mais le portage de Paper Mario, la porte millénaire, qui était sortie sur 64, qui sera officialisé
GameCube.
Sur Switch. GameCube, pardon.
GameCube.
Tu dis quoi?
Ouais.
64.
64. C'est le premier 64, je crois. Il me semble.
Oui, le premier, c'est 64, oui. Oui, c'est t'as raison, oui, c'est GameCube. Attends, Taran, tu viens de
puissance Nintendo. Heureusement
qu'on a une chaîne. On va pas te contredire. On a eu la date officielle. Donc, il sortira le 23 mai, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Le 23 mai prochain. Donc, c'est bientôt. Et on a eu aussi Luigi's Mansion 2 HD, qui était sorti sur 3DS. Je dis pas de bêtises là.
Ouais, c'est ça.
C'est bon.
3DS.
Il sortira le 27 juin. Donc cet été, voilà. Ça, c'est officiel.
Je l'avais pas fait, moi, sur 3DS. Alors, je suis super content de le voir là. Ah bah ouais, tenter, ouais.
Étant donné que j'ai déjà fait sur 3DS, pas trop.
Oui, pareil. Je vais pas le refaire. Je vais pas racheter celui-là.
Le truc qui m'a le plus tenté avec Luigi's Mansion 2, je veux te dire, c'est... Il y a un pack où tu as un petit mug Luigi's Mansion avec des petites figurines. C'est le seul truc qui pourrait me tenter à la limite parce que je trouve que le mug est sympa. Mais le problème, c'est que le pack est à 80€. Donc, tenté, mais pas trop.
Ça fait cher le mug.
Ouais, voilà, ça fait cher le mug.
Et Port du Millénaire, par contre, moi, je ne l'ai jamais fait.
Pareil.
Parce que trop cher pour le trouver en version physique d'occasion, il se vendait presque une centaine d'euros. Donc ça sera l'occasion pour moi de mettre la main dessus, et comme j'aime pas trop jouer sur les émulateurs, et en plus on n'a pas le droit, hein, je le rappelle, si on n'a pas le jeu d'origine. Donc, ça sera l'occasion pour moi de le faire. Pas de le refaire, mais vraiment de le faire, ce porte du millénaire. J'ai hâte. Ouais, il paraît que c'est, d'après les connaisseurs, ça serait le meilleur de la série. Avec vraiment
beaucoup aimé à l'époque, ouais.
Je peux pas te dire, je l'ai pas fait non plus. Donc, je peux pas te dire, mais apparemment, c'est censé être le meilleur.
Bon, on aura plaisir de retrouver cela. D'autres choses, qu'est-ce qu'on a appris? Ah oui, notre catalogue de Nintendo Switch Online s'est agrandi, puisqu'on a eu 3 jeux Mario qui sont arrivés d'un seul coup.
On a Mario Golf de la Game Boy Color, on a Mario Tennis, et on a le fameux Dr. Mario sur Game Boy, qui vont arriver aussi le 12 mars, donc c'est déjà disponible, si vous avez accès au pack.
Ouais, Dr. Mario, ça a été mon premier jeu avec Tetris sur Game Boy. Bon souvenir.
Ça date.
Ouais, ça date, c'est clair.
Et c'est dernière petite annonce aussi, ils ont annoncé de nouveaux sets Lego. Alors, il y a trois sets classiques avec un train Bowser, un manoir hanté et un autre château avec le château de Peach avec Roy. Et surtout, ils ont annoncé un petit teasing, un Lego Mario Kart qui arriverait en 2025. On sait pas à quoi ça ressemble, c'est un teasing d'une dizaine de secondes à la fin de la vidéo d'annonce, mais on sait qu'il y aura un Lego Mario Kart qui existera d'ici 2025.
Et est-ce qu'il va rouler?
C'est la bonne question. On sait vraiment rien dessus.
Ça serait quand même moins des choses. Bien. Voilà pour le. C'était à peu près tout, hein, sur Mario's Days.
Ouais.
Voilà, qui était le 10 mars.
Tout ce que j'ai eu, c'est déjà pas mal.
Ouais. Alors, voilà, on va terminer la grosse actu par celle-ci. C'était pas la. Voilà, c'était assez triste.
Attends, le vol PPG va faire un détour et prend sur son vol un nouveau chroniqueur qui vient d'arriver. Bonjour.
Ah, on a un nouveau passager.
Bonjour, monsieur, oui.
Salut, Gaz. Voici l'hôtesse de l'air. Regardez quand même qu'elle arrive.
Ah yes, est-ce que je peux avoir un plateau repas s'il vous plaît?
Bah oui, avec la grève des avions, là je viens juste d'arriver, je suis vraiment navré.
Il a quand même vaincu sa peur, c'est beau.
Ah oui, ouais. Mais moi c'est un avion au sol, hein. Je fais pas de l'avion en l'air, c'est pour ça.
Pourtant on m'a toujours dit que tu rêvais d'avoir les fesses en l'air.
Non mais là, c'est un autre sujet ça, on faut pas tout confondre, ne dévions pas.
Ça va mon Gab?
Ça va et toi?
Ça va, allez. Tu prends la queue en route, mon loulou ?
Oui, je prends la queue en route, t'inquiète pas.
Bon, ben justement, ben tiens, je pense que c'est quelque chose qui allait te toucher, puisque c'était à peu près la même génération que moi, t'es pas comme tous ces noobs de Rolling et de Taran. Ouais. Nous, on est dans les années 80, messieurs, et je peux vous dire que il y a un monsieur qui nous a beaucoup influencé, puisque hein, au Club Dorothée, en 88, on a découvert un certain Dragon Ball. C'est le décès de Akira Toriyama, qui nous a quittés ce 1er mars. Voilà, à l'âge de 68 ans seulement, et bien sûr on va pas faire tout son CV, ça serait trop long, mais bon, il a bien sûr fait le manga Dragon Ball, mais pas que, Dr. Slump, Sandland, des choses comme ça. Il a aussi énormément participé à des jeux vidéo comme Dragon Quest, hein, voilà, hein, c'était le character designer, Chrono Tiger, Blue Dragon, Tobal numéro 1, etc. Ouais, de très très bons jeux. Et on voilà, il nous a quittés. Alors il avait fait plein de choses. J'ai redécouvert en regardant un petit peu sa biographie, hein, voilà, rapide. Suite à son décès, on a vu tout ce qu'il avait pu faire. J'ai parlé tout à l'heure de Sandland, c'était un manga, un one-shot. Pour rappel, Sandland, c'est un jeu qui va sortir le mois prochain.
Il y a déjà la démo.
Tous les supports.
Ouais, déjà la démo. Globalement, dans la démo, c'est une démo extrêmement courte. Mais c'est une démo dans laquelle on voit surtout le système de combat du jeu, globalement. On voit pas beaucoup de choses dans cette démo. Et assez curieux ce que ça va donner derrière.
Elle est dispo sur quoi? Sur tous les supports?
La démo, je sais que moi je l'ai faite sur PC. Je saurais pas dire sur quel support c'est.
Et puis il faut quand même, comme tu as dit, il est associé à des grands noms du JRPG, à des grands noms tout court, quoi. Donc ça va au-delà de Dragon Ball. Dragon Ball, ça a été, on va dire, son gros fait d'armes, parce que quand on pense à Akira Toriyama, c'est Dragon Ball avant tout, mais faut tout ce qu'il a touché, c'était de l'or derrière pour leur créateur. Parce que Dragon Quest, si t'enlèves les graphismes et tous les designs des personnages, ben, je pense que ça perd la moitié de son intérêt. Si Chrono Trigger, pareil, l'univers, t'enlèves tout l'aspect graphique, je suis pas sûr qu'il aurait eu le succès qu'il a eu. Donc vraiment, grosse perte. Et puis bah voilà, c'est une génération qui passe, quoi.
Alors, ouais, ce qui est beau d'ailleurs, j'en profite avec Sandland, c'est que si vous mettez écoutez les voicings en japonais, vous aurez les mêmes acteurs, les mêmes doubleurs que dans la série Dragon Ball. Donc c'est une belle ref. Par exemple, on retrouve le doubleur de Goku, de Piccolo, dans Sandland.
Et d'ailleurs, il n'y a pas que le jeu qui sort, il y a aussi un animé, je crois, autour d'une série.
Ouais, le 20 mars.
Il y a un film aussi. C'est un film qui arrive au cinéma. Alors, il est sorti au Japon, peut-être bientôt en France. Je n'ai pas des dates de sortie, mais en tout cas, il y a un gros animé qui devrait sortir.
On n'entend pas fort, Gab, je trouve.
Ah ouais ?
Je ne sais pas si c'est peut-être que moi, hein, mais...
On monte un peu ton volume, mon loulou. Tiens, et vous savez quand est-ce qu'est sorti le premier... Alors, j'ai découvert ça dans l'actu sur Gamekult, là. Est sorti le premier manga... de chez Glénat, hein, Dragon Ball en français. En quelle année?
Je dirais dans les années 90.
Ouais, ce que j'allais dire, ouais. Dans les années 90 aussi. Ouais.
Dans les années 90, en 93 exactement.
93. J'avais 5 ans, quoi.
Ouais, c'est tard quand même, hein, entre le moment où on a découvert l'animé et au moment où on a eu les premiers mangas, il s'est passé un certain temps. Ouais. Il y a eu 5 ans.
J'entendais sur Sumimasen Turbo, ils en parlaient. Eux, ils sont mis au japonais en partie pour pouvoir prendre de l'avance sur les mangas et savoir ce qui se passait.
Furieux, quoi.
Ouais. Et parce que les mangas n'existaient pas en France, donc je sais plus quand a commencé Dragon Ball Z en France, mais ça a dû démarrer dans les années 80, début 90. C'est vrai que le Krillin Gate, il arrive assez tardivement quand même dans la série. On l'a vu pas avant 94-95, puisque des fois t'avais 2 ans de série qui passaient où les personnages ne faisaient que se parler. Je sais pas si vous vous souvenez.
Moi, je suis tombé dedans avec le Z. Hein. Alors, j'ai revu Dragon Ball après, mais à mon âge, quand j'étais Club Dorothée, c'était le Z qui était à la télé, quoi.
Oui, non, bah,
moi, quand je pense que c'est vraiment le Z. C'est le premier que j'ai vu. Dragon Ball classique, pas le Z.
Moi, je suis un peu rétro, mais je préférais le premier Dragon Ball. Il était plus mignon, plus gentil. Il y a plus d'humour, je trouve. Après, je trouve qu'avec le Z, c'est devenu vraiment que du fight.
Ah, sérieux.
Des combats d'une qualité, d'une intensité.
D'accord.
Non, mais oui, il y a des combats, franchement.
Ça change un peu l'univers, quoi.
La castagne.
Ouais. Moi, je préfère la bagarre aussi, hein, avec.
Et ça,
la bagarre.
Moi, ce que j'aime, c'est la bagarre.
Non, mais attends, parce que je veux pas dire, mais c'est comme de l'humour cucu, quoi, avec Tortue Géniale qui aimait les magazines cochons.
Ah, mais non,
c'était graveleux.
C'est plus très woke maintenant, hein. C'est pas très hashtag MeToo, mais.
On s'en fout, c'était. Voilà, c'est.
Oui, mais au moins c'était drôle, ça faisait rire tout le monde et
moi,
ça allait bien dans son époque aussi. Ouais.
C'est comme bien, Nicky Larson avec sa masse.
Ouais, quand il jetait une pilule, que ça se transformait en un vaisseau, un truc comme ça, ou un appareil.
Ouais, capsule. Bien.
Mais les petites
c'était
capsules
génial,
de Bulma.
Capsule, là, ouais.
Là, je me suis mis en quête des Dragon Ball pour ressusciter Akira. Je cherche un radar, si vous en avez un.
On a tous un souvenir de près ou de loin avec l'univers de Toriyama. Voilà, on en a parlé dans tous les médias, hein, donc c'est quand même... c'est pas tous les jours quand la disparition d'un mangaka, on en parle même sur les médias, on va dire, plus généralistes. C'est pour montrer à quel point il était important dans l'univers geek, dans la culture pop.
Sans lui, en fait, c'est quand même lui qui a amorcé le format shonen tel qu'il s'est imposé par la suite avec des grosses séries comme Naruto, One Piece ou Bleach, on peut passer de Demon Slayer plus récemment, où le héros monte en puissance jusqu'à devenir... Dieu, et voir se battre même contre des choses qui dépassent Dieu, et je trouve ça, voilà, c'est quand même lui, l'auteur, qui a mis en avant le fait qu'on pouvait avoir une montée de puissance sans fin. Et
c'est lui qui a mis en avant aussi le fait que plus on est fort, plus on a les cheveux longs.
Alors,
on a aussi pour tous ces mangakas. Hein. Sans lui, il n'y aurait pas eu, comme Gab l'a dit, il n'y aurait pas eu tout ça. Et globalement, par exemple, si tu écoutes Oda, donc qui a fait One Piece, il considérait Toriyama comme un mentor, et c'est pareil pour la plupart de tous ces mangakas. Hein. C'était d'ailleurs, ils ont tous fait un énorme hommage, comme le dit Mister Bordeaux sur le chat, ils ont tous fait un hommage énorme pour Akira Toriyama.
Et pour moi, deux des meilleurs JRPG de tous les temps. Sont là plus ou moins grâce à lui, et c'est Chrono Trigger et Dragon Quest 8, les deux bébés, quoi, qui transpirent Toriyama. Dragon Quest 8, quand ton personnage monte en tension, il a les cheveux qui deviennent comme Son Gohan en Super Saiyan 2, donc voilà, c'est mon petit cœur de joueur se souvient de ça, et ça m'a toujours fait du bien de passer, essayer de placer cette, je sais plus si c'était transcendance, j'ai un doute maintenant, cette tension ou transcendance qui permettait d'avoir un Sangouane dans son équipe pendant quelques instants.
Et c'est jeux vidéo aussi, moi je me souviens des Dragon Ball Budokai, à l'époque, c'était assez novateur. Hein. J'ai vraiment accroché ces jeux-là aussi, quoi. C'était top.
Ouais, mais là, ça dépassait.
Lui, il faisait pas les jeux, hein. Il faisait juste les caractères design.
Oui, mais l'univers venait de lui quand même. Ah, oui, d'accord, donc, bien sûr.
Ouais. Ouais, mais alors, plutôt parce que pareil, à partir de Dragon Ball, la saga Boo, on va appeler ça comme ça, tout l'arc Boo, tout ce qui a suivi après, c'était plus GT, c'était quelqu'un d'autre, et tout ce qui s'en est suivi d'ailleurs après au niveau des caras qui ont été proposés, des films et tout ça, lui, il voulait plus, il n'a plus rien touché du tout. Et les jeux, il les a suivis, supervisés parfois de très très loin, au point où c'était même plus lui. Les seules choses dans lesquelles il s'est investi, c'est vraiment les Dragon Quest parce qu'il a signé un contrat à vie. Ça, c'est.
Oui, ça, engagé comme ça.
Ouais, et j'ai cru comprendre que c'était quelqu'un qui n'aimait pas bosser en plus. Donc, ça a été la. Enfin, il a dit dans une interview, j'avais vu que s'il avait su il y a 30 ans que quand il a commencé à travailler sur un petit jeu qui s'appelait Dragon Quest, 30 ans plus tard, il continuerait à faire des personnages pour ce jeu, il n'aurait jamais signé.
Donc, voilà pourquoi je mets contre qui signé. J'adore Dragon Quest.
Moi aussi, le 11 c'est un petit bijou.
Bien, on ne pouvait que lui rendre hommage à Toriyama. Et j'espère qu'il inspirera de nombreux mangaka. Voilà, c'était un petit hommage qu'on pouvait lui rendre. En tout cas, il avait différents univers qui ont touché beaucoup d'art, que ce soit de l'animé, du manga ou du jeu vidéo. Messieurs, je vous propose. Difficile d'enchaîner après ça. Mais on va quand même faire un petit coin autour du coin des rumeurs, messieurs. Vous êtes d'accord ?
C'est parti.
Allez, coin des rumeurs.
Pour une poignée de gamers, le podcast.
Coin des rumeurs. Et tiens, je suis content que Gab, tu sois arrivé dans l'équipage, puisque c'est pas un truc dans lequel je suis hyper calé, mais il fallait quand même
qu'on l'évoque,
puisque aussi.
D'ailleurs, Dux, on a sorti un test il y a pas très longtemps, et j'ai promis aux éditeurs que tu prononcerais le nom de ce jeu.
Oula, c'était quoi? Enshrouded. Bon, en tout cas, allez l'écouter, le test. Voilà. Jeu qui vous a bien plu, si j'ai compris.
Yep.
En tout cas, moi, j'ai toujours pas compris le titre. Mais allez, on va parler de la PS5 Pro dans ses rumeurs, puisque des rumeurs insistantes. Bien sûr, vous savez que Sony a l'habitude de modifier son hardware au fur et à mesure de la génération, enfin, que la génération avance dans son temps. Ça fait quoi? Ça fait maintenant combien de temps qu'elle est sortie la PS5, messieurs? Je ne sais plus.
Ça va faire 3 ans, là. Ça fait 3 ans.
Ouais, ça
va faire
4 ans. 3 ans et demi, ouais.
3 ans. Ouais, alors, sachant que les générations, c'est quoi? C'est 7 ans, 7 ans et demi. On est quasiment à la moitié de la génération. On a déjà une PS5 Slim. Et on parle de PS5 Pro, comme il y avait eu pour la PS4. Donc, c'est pas une énorme surprise, mais bon, voilà, ça commence à se préciser, notamment au niveau de la sortie, puisqu'on parle quand même de l'automne 2024. Donc, c'est tout proche, fin d'année. On a déjà eu des signes avant-coureurs, puisqu'on a une baisse de prix, je crois, officielle de la PS5.
Ouais, il y avait une baisse de prix. Et toi, c'est une demi-surprise, parce que Philou, notre cher Philou de chez Xbox, avait un peu grillé la mèche. Il avait dit lors de sa conférence il y a 3 semaines, je crois, qu'il avait dit. Dans le business de Xbox, fin d'année, on a une nouvelle Xbox, un nouveau hardware qui va arriver. Donc forcément, on sait très bien que quand il y a un hardware Xbox, il y a un hardware Sony en face. Donc on savait que Sony allait se positionner sans trop tarder. Ouais.
Mm-hmm. Bon, alors là, il y a des specs qui sont de sortie. Hein. Ça reste de la rumeur, mais ça a l'air que les sources, en tout cas, sont très sérieuses puisque ça vient d'un certain Tom Anderson. Donc en fait, on trouve les specs sur Internet avec les différences. On voit
Tom Anderson, c'est la laveur de glace chez Sony, c'est ça?
Je ne sais jamais trop entre Tom. Il y en a plusieurs comme ça, des mecs qui ont des noms qui reviennent souvent, mais qui sont pas des vraies personnes, qui sont des insiders comme ils appellent.
On parle toujours d'eux, mais on ne sait pas qui c'est en fait. C'est,
mais tout ce qu'ils disent, en tout cas généralement, ça s'avère vrai.
Ils ont toujours les bons plans, mais personne ne sait qui c'est, tu sais.
C'est clair. C'est la top.
Voilà.
Donc, ça se trouve, je déconne, mais ça se trouve, c'est vraiment c'est une femme de ménage qui est chez Sony, elle récupère les papiers dans la poubelle.
Le stagiaire de la photocopieuse.
Oui, imagine. Photocopieuse. Elle passe ses soirées à vider la broyeuse et à raconter les papiers.
À la maison, il a des cartons de scotch. Le mec, il fait ça toutes les soirées.
Il a un fil avec des étoiles dernières rouges, là, tu sais, où tu relis les choses.
Après, tu sais, il affiche tout sur son tableau en mode enquête criminelle, tu sais.
C'est ça, ouais, sur le mur, est-ce que
des relis. Avec des fils, avec des punaises, il relit, enfin bref. Passons. En tout cas, il y a des specs en liberté, on va dire ça comme ça, et en gros, il n'y a pas d'énormes évolutions, si ce n'est que le CPU est un petit peu plus puissant, mais la grosse évolution va se faire essentiellement sur la carte graphique qui va passer sur un nouveau SoC, donc une nouvelle techno. On va être sur les nouvelles techno de chez AMD, et la bande passante de la carte graphique passerait de 10 teraflops à 33,5 teraflops, qui fait quand même 3 fois plus de calculs pour la carte vidéo, sachant que les RDNA 3 en plus sont meilleurs en ce qui concerne le ray tracing et tout ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire si les autres specs ne bougent pas mais que la carte graphique augmente? En gros, faut pas s'attendre à avoir du 4K peut-être partout, mais en tout cas avoir des modes déjà 1080p avec tout à fond, qui sera déjà pas mal en 60 fps. Là où avant, il fallait faire déjà un choix entre le 1080p 60fps ou et tout beau, ou le 1080p 30fps avec... je sais plus, c'est 1080p 30fps avec les graphismes à fond ou en 60fps, mais tu perdais certains effets. Là, je pense qu'en fait, on va pouvoir enfin profiter de la HD sans compromis, et on aura peut-être aussi des jeux 4K sans compromis. Par contre, vu que la mémoire n'évolue pas et tout, on ne va pas falloir non plus attendre à voilà, un gros gap technologique. Ce sera surtout pour avoir des jeux en meilleure qualité, mais pas forcément voilà, ouais. Sans le bon premier FPS.
Ce ne sera pas un gap comme la PS4 ouais. Pro, excuse. La PS4 Pro, c'est quand même le gap du de 4K quand c'est arrivé. C'est passé du 1080p à 4K, donc c'était un sacré gap, un sacré saut en avant. Là,
oui, c'est ce qu'ils vendaient, en vrai.
C'est comme avec la nouvelle génération aujourd'hui, c'est soit t'as un mode perfo avec du 60 ou du 120, c'est rare, FPS pour 1440 ou 1080p, soit t'as du 4K et du 30fps. Donc là, ça
va. Et encore, c'est du 4K. Généralement, c'est du 4K qui est scalable, c'est-à-dire qui est pas tout le temps figé en fonction des jeux. Hein, je vois. Mais aujourd'hui, à part avoir du 1080p 60fps avec des graphismes des fois un peu dégradés, y a rien où elle tient les 60fps. Le 4K, il tient aujourd'hui pas les 60fps. T'auras peut-être des jeux 4K 60fps à terme.
C'est très rare. C'est très très rare.
Je veux pas faire ma langue de bois et je veux pas tirer sur Sony parce que je mets aussi Xbox. Mais messieurs, ça fait 3 ans que cette génération est sortie. On nous parle de PS5 Pro. Alors là, je mets le pied dans le plat. Mais je m'excuse, on sort encore des jeux sur PS4. On a encore des jeux qui sont tirés vers le bas pour être à cheval sur 2 générations. On nous parle de PS5 Pro. Déjà, si on pourrait juste exploiter la PS5, ça serait pas mal. Parce que pour l'instant, on voit rien venir. Hein. Sérieux.
Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vendu, hein, ça c'est clair.
C'est la génération du vide, quoi.
Je vais être honnête, de toute façon, je vois même pas tant l'intérêt que ça, dans la mesure où les jeux sont de base pas optimisés pour la console et les perfos d'origine, qu'elle est censée. La console d'origine. Oui, c'est ça. Ouais. Et les perfos qu'elle est censée pouvoir faire. Déjà qu'on n'a pas ça sur la génération de base, je vois même pas l'intérêt d'acheter une Pro.
Là, c'est sûr que de toute façon, la PS5 telle qu'elle, il y a carrément moyen de sortir des jeux avec des performances meilleures et tout, mais après, c'est le temps de dev et tout ça qui ça demande. Hein. Donc, c'est vrai que c'est plus simple finalement de livrer des jeux non optimisés que t'optimises à travers des composants qui sont capables de livrer de la puissance plutôt que s'adapter à un hardware en essayant d'optimiser toutes les ressources aujourd'hui.
Oui, mais du coup, le problème, c'est le même après, si tu vas dans ce sens-là.
Parce que la
performance, elle est déjà là. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un choix de développement parce que la performance, elle est déjà là. C'est juste qu'ils exploitent pas suffisamment la performance de la console pour.
Après, tu vois, FF16 Rebirth là qui est sorti tout récemment. Bon.
Sauf exception, je suis d'accord. On peut dire pareil, si tu veux, on peut reporter le débat sur la Switch. Tu compares un Zelda Breath of the Wild et tu compares la grande majorité des sorties sur Switch, c'est exactement pareil que sur PS5.
Tu vois, quand même...
aussi avec un Horizon. Regarde Horizon sur PS5 et regarde d'autres jeux qui à côté, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête.
Non, Horizon sur PS5, je l'ai joué, je le trouve pas super beau, on va pas se...
Ah, il est plutôt propre, mais il est beau. Alors, juste un manque de fluidité sur le mode...
Jusqu'à pour toi. C'est-à-dire qu'après, tu as du brouillard. Donc, c'est un peu un problème. C'est le problème du jeu. Bon, on va pas faire le test d'horizon. Mais juste pour dire, oui, on voit.
Horizon, c'est pas sa faute.
Non, on voit quand même que là, au bout de 3 ans, avec un FF7 Rebirth, que quand même, la machine, elle est capable de faire des trucs de fou. Mais de fou furieux. Là, je crois que c'est le premier jeu là, depuis cette génération-là où je fais. Là, ouais, là, d'accord.
Comme le dit Mr. Bordeaux aussi, il y a l'exemple de Tekken 8 sorti récemment. Le jeu est graphiquement magnifique et en termes de FPS, c'est pareil, irréprochable. Techniquement, on commence à voir des jeux, là, par le même exemple que FF7, qui sont de plus en plus propres et optimisés. Mais au bout de 3 ans, c'est tard. Et c'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas.
Ouais, je vois encore. Tout à l'heure, je parlais d'un jeu, je vais faire une news, bon, je voulais tout de suite, je me la grille. Mais il y a Top Spin qui va sortir là, en avril. Putain, les gars, ils le sortent encore sur PS4. Et bien sûr, le jeu, il est pas hyper beau, quoi. Bon, tu me diras, c'est pas l'essentiel du gameplay, mais bon, c'est. T'as envie de leur dire. Et les gars, c'est fini, quoi. On passe maintenant à la génération, quoi. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans, quoi.
C'est clair, moi, ça me.
Ça me bouffe, quoi.
Dès le début, je le disais, cette cross-gen, ça va pas nous aider. Et j'aurais jamais cru que ça aurait duré aussi longtemps.
Et je me rappelle encore le président de Sony qui disait « Nous, on croit en la génération. Mon cul, c'est... » Et alors qu'ils accusaient, Microsoft de dire « Ouais, eux, ils vont faire encore sur la Xbox One pendant des années. » Les deux font pareil. Hein. Les deux,
ils sont
sur l'ancienne génération. Quoi.
Est-ce que c'est grave, vraiment? Enfin, je me pose la question.
Grave, mais c'est pas que c'est grave. Mais je veux dire, à quoi ça sert d'avoir une PS5 ou une Xbox
Series? Pour les jeux, vraiment...
Il y a quoi? Il y a Tekken 8, tu viens de le dire. Il y a quoi? Vous avez parlé de FF.
FF7.
Returnal. Il y a tous les jeux.
Returnal, il est sur PS4, non?
Non, il n'est que PS5.
Que PS5, ok.
Il est que PS5, mais même, il est pas hyper. Enfin, excusez-moi.
Si, retournons le jeu.
Autant j'aime pas le jeu, autant.
En soi, mais graphiquement, il est pas. Enfin, il pousse pas la machine dans les compétences techniques de la machine.
Non,
pas
non, après, on a du Demon's Souls Remake qui était très beau. Mais oui, voilà, on les cherche. C'est quand même ça, on les cherche là. On en a cité 4 ou 5 en 3 ans. Enfin voilà, ouais. On n'a pas non plus.
Globalement, c'est surtout qu'il faut attendre 2024 pour commencer à avoir des jeux qui sont vraiment next-gen.
Non, là vous exagérez. Non. Alors,
l'exception, Returnal en est l'exemple, sauf rares exceptions. Mais la plupart des jeux sortis jusque-là, c'est quand même
depuis
des
un
jeux
an.
Qui sont loin des standards qu'on attendait de la next-gen et qu'on nous vendait sur la next-gen.
Depuis un an, il y a quand même pas mal d'exclus, pas d'exclus en tout cas, de jeux propres à cette génération qui sort uniquement sur PS5 ou Xbox Series. Là, récemment, on a eu quand même un bon paquet de jeux qui sont sortis que sur new-gen.
Oui, mais si tu regardes leur performance, la console peut faire plus.
Tu dépasses le débat. Je te parle juste de jeux qui ne fonctionnent que sur cette génération-là. Là, moi, je vois, il y a eu Grand Blue Fantasy, il y a eu... Là, il y a Rise of the Ronin qui sort encore là, ce mois-ci.
Rise of the Ronin. Rise of the Ronin, on l'a dit la dernière fois, j'ai vu le gameplay, on dirait un PS4.
Limite, ça pourrait presque tourner sur la Switch en le bridant un petit peu.
Il y a eu Helldivers 2, il y a eu...
Cross avec le PC aussi.
Oui, mais c'est pas un jeu qui peut tourner sur PS4, c'est ça que je veux dire.
Non, on est d'accord. Helldivers va tourner sur PS4, on est d'accord.
On va pas se rendre la tête, les gars. S'ils la sortent, il y en a qui seront contents de l'avoir. Ils auront 20 FPS de plus sur un ou deux ou trois jeux de la génération. Tant mieux pour eux. En tout cas, c'est pas un truc contre Sony hein, qu'on est en train de dire là. C'est juste que cette
génération. C'est pas contre Sony.
C'est pareil pour Xbox, globalement.
Microsoft avec.
Microsoft, c'est pire. Dans ces cas-là, si on va parler de Microsoft, c'est bien pire.
Oui.
C'est ce que je dis. Pour ça, je commence par dire Microsoft et Sony aussi. Nous avait promis des mondes et merveilles sur cette génération, qu'on allait voir un tac technique, un saut dans le. D'ailleurs, c'est commercial, hein, à chaque fois ils feront ça. D'ailleurs, là, quand ils commencent à parler de PS5 Pro, là, ils sont en train de nous dire que ça va être le jour et la nuit. Alors, on sait très bien que ça sera quasiment, on verra à peine la différence. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette génération, c'est sans doute l'une des générations qui a fait le moins de gap entre la génération précédente et la génération.
C'est normal.
C'est normal, on a aussi une cross-gen déjà entre temps.
On est. Non, mais puis même, sans parler de cross-gen, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, c'est aussi le cas sur PC, depuis maintenant une dizaine d'années, l'évolution technologique, elle se ressent visuellement de moins en moins. Il faut regarder les jeux sur des tranches de temps beaucoup plus longues pour voir une réelle différence. Là, je je dis quand même, il y a des jeux récemment qui m'ont fait dire, ouais, là, waouh, je suis sur la nouvelle génération. Il y a eu Armored Core 6 aussi, qui t'en met plein la vue sur certaines zones et certaines scènes. Final Fantasy Rebirth, c'est un truc de malade. T'as des moments, tu te décroches la mâchoire tellement que c'est beau en mourir, quoi. On fera un test, hein, ça va arriver. Ça va sûrement être le jeu de l'année aussi, lui. On va pas. Mais donc c'est un peu l'exception. C'est là où je veux en venir. Mais quand ils sont capables de mettre tout ce qu'ils ont en ressources pour faire du graphisme avec ce que peut faire la bécane, ça peut être aussi un truc de dingue.
Bon, voilà. En tout cas, c'était notre rumeur. Voilà, une PS5 Pro. C'est pas une surprise. On l'attendait. Et tu nous dis, toi, Rowling, effectivement. Xbox de son côté aussi, ils auront une future series.
Oui, Fiction Series a annoncé qu'ils annonceraient un nouveau hardware, c'est pour cette fin d'année. Donc ça se concorde avec la PS5 voilà. Pro.
On aura deux Ferrari sur lesquels on pourra rouler à 60 km/h avec, c'est très très bien. Messieurs, j'enchaîne tout de suite parce qu'on est comme d'habitude, on est toujours à la bourre. On va enchaîner sur le sujet.
On est à la bourre par rapport à quoi ?
Pardon ?
On est à la bourre par rapport à quoi ? On a un train.
Par rapport qu'il va être très tard et qu'on peut pas faire une émission de 2 heures et qu'il faut que j'aille me coucher, mon petit loup. Je travaille. Le sujet des auditeurs, c'est parti, c'est tout de suite.
Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
Sujet des auditeurs, Taran, tu nous as fait le plaisir de ta présence justement parce que tu voulais nous parler, je crois, de Steam et le partage de comptes, c'est ça ?
Exactement. Alors sur Steam, on a une petite annonce de mise à jour. C'est en version bêta actuellement, mais globalement, avant on avait différents programmes familiaux distincts pour gérer tout ce qui est les comptes enfants, les partages de comptes, etc. Là maintenant, on a un programme familial un peu plus unifié, avec lequel on a donc deux fonctionnalités majeures. Le contrôle parental, qui globalement, hein, c'est un contrôle parental classique. Tu peux voir quand un compte joue, tu peux restreindre l'accès à certains jeux. Tu peux aussi, petite feature assez sympa, tu peux recevoir des demandes d'achat des enfants. Voilà, ils appellent ça comme ça. En gros, il va sur le store, il clique demande d'achat et plutôt tu reçois un petit mail. Votre enfant veut acheter tel jeu. Bon, ok.
Hey Gab, s'il te plaît, je veux acheter ce jeu.
Le dernier point qui peut être intéressant, par contre, pour à peu près pour la plupart des gamers au-delà des familles, c'est qu'il y a donc un système de partage familial, c'est-à-dire en gros vous créez un groupe famille. Et dedans, vous avez juste à ajouter le compte de un autre compte. Donc par exemple, on va dire moi j'ajoute le compte de Gab. Et donc chacun aura accès à la bibliothèque de l'autre sans avoir à se connecter sur le compte de l'autre. Du moment que l'autre ne joue pas au même jeu. Et si vous avez deux fois le même jeu, bah vous pouvez jouer du coup en double le même jeu.
Regarde ça, Rowling, hein, de très près.
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Bah, parce que là, on va pouvoir fusionner nos bibliothèques Steam ensemble.
Exactement. En gros, tout le monde fusionne ses bibliothèques sans avoir besoin de se connecter au compte des autres globalement.
Et c'est ce qu'on faisait avec Gab, hein, on se connectait au compte de l'un, l'autre, à chaque fois, il fallait que l'un valide.
Non, mais du coup, c'est beaucoup plus simple. Ça simplifie beaucoup le truc pour tous les gamers qui faisaient ça. Donc, globalement, ça peut être très intéressant, comme dans votre cas, pour partager les bibliothèques les uns des autres.
Mais ça va être payant, ça ? Ça va être comment ?
Non, pas du tout, c'est natif à Steam. On peut y accéder dès aujourd'hui, il y a une version bêta, donc il faut s'inscrire au programme bêta, ce qui se fait en fait dans les paramètres de Steam, dans la section interface, si je me trompe pas. Et du coup, tu rejoins la bêta et ensuite tu peux déjà tester ça dès aujourd'hui.
Mais carrément, il faut sur un compte famille PPJ, alors après il faudra définir qui est le papa, la maman, le tonton, l'enfant. Il y a des droits sur qui par rapport à qui joue à quoi, ça peut être très rigolo.
Bah, et globalement, t'as deux rôles, t'as adulte, enfant, voilà.
Allez, on fera un pari, on fera un jeu avec les chroniqueurs, savoir qui sera l'enfant, qui sera l'adulte, qui pourra faire une demande d'achat. Ça pourrait être marrant. Non, mais en vrai, ça, c'est cool. Moi, je trouve ça cool, cette feature. Ouais. Donc, il faut que je vois comment
ouais,
ça marche.
C'est ça. Ouais, mais...
Après, c'était vrai que Steam, là, depuis quelques temps, ils ont quand même pas mal ouvert leur politique vis-à-vis des joueurs, ce qui est une bonne chose. Voilà.
Ouais, mais du coup, c'est ça, c'est bien. Et comme ça, tu peux te coordonner, par exemple, avec tes potes. Un tel achète, par exemple, là, sur ce mois-ci, un tel achète Dragon Dogma, l'autre achète Rise of the Ronin. Enfin, je sais pas s'il sort sur PC, mais s'il sort sur PC, sinon Horizon, mais c'est la même idée, quoi. Et comme ça, tout le monde peut jouer globalement, c'est plus simple pour tout le monde.
Carrément.
Yep, messieurs, alors moi je suis pas intervenu, hein. Je n'ai pas de PC, voilà. Steam pour moi c'est loin, c'est un mystère. En tout cas, tant mieux si ça peut améliorer le confort pour les utilisateurs. On part tout de suite, l'actu en vrac.
Pour une poignée de gamers, le podcast.
C'est parti, c'est l'actu en vrac et on commencera par le sel. Zou. Actu en vrac, Rowling. Alors le sel de la semaine 8, qu'est-ce que tu nous proposes?
Le sel de la semaine 10, monsieur.
10? T'avais marqué 8, tu vois.
Ah, mais c'est que ça n'a pas été utilisé la dernière fois.
Ouais, voilà.
Ah, mais voilà, ça suit plus, ça y est. Qu'est-ce qu'on a à votre avis sur cette semaine 10, donc il y a 15 jours?
Mario Kart!
Oui! c'est un peu
non, c'était sûr! Il y a deux jeux pour moi. Deux jeux sûrs, Helldivers et Mario Kart.
Ah, il n'y a pas Helldivers, mais il y a bien Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, en troisième.
FF7 Rebirth?
Ouais, FF7 Rebirth, il y a 15 jours, il était premier et deuxième avec sa version Deluxe et normale. Là, il est toujours premier en version
sur PS5,
normale
j'imagine.
Sur PS5, mais il est que sur PS5.
Ah oui, pardon.
Il n'est pas sorti sur PS5.
Il sera. version Pixel Remaster, là.
Quoi d'autre?
Il y a un jeu surprenant et les autres.
Skull
and Bones? Quoi? Non, Skull and Bones, non. Pas à ce point-là surprenant, quand même.
faut pas déconner non plus. Il y a FC24?
Non plus.
Call of Duty, peut-être.
Non.
Mario PPG, un truc comme ça.
Mario
Wonder.
Mario PPG, je ne connais pas encore. Mais
Mario PPG, ouais, mais faut qu'on le fasse celui-là.
Faut le faire celui-là.
Mario
Wonder, oui, deuxième, ouais. Mario RPG, non. Mais il y a un Mario encore. Il reste Mario. On a trouvé le premier, FF7 Rebirth. Le deuxième, Mario Wonder. Le troisième, Mario Kart 8 Deluxe. Il manque le quatrième et le cinquième.
C'est quoi, des jeux Nintendo?
C'est un jeu Nintendo en cinquième, et c'est un jeu PS5 en quatrième, mais qui n'est pas exclu PS5.
Ah, c'est pas le truc avec les armes à feu, là?
Les armes à feu...
Avec les trucs de DC Comics, là.
Suicide Squad, là, le Fail Squad. Non, il n'est pas là. Lui, il s'est planté la gueule, et puis on ne le reverra pas, je pense.
Il est pas FC?
Je vous les donne.
FC24?
Il n'y est pas, non, il a dit.
Non. Allez, en cinquième, c'est Mario vs Donkey Kong, qu'on retrouve là.
Je l'avais déjà oublié. Hein.
J'avance de plus en plus sur le jeu, et non, franchement, il est sympa. Ça se fait très bien. Et en quatrième, c'est WWE 2K24, le jeu de catch.
Oh, voilà.
J'aurais jamais deviné. Ouais.
Enfin, tu veux dire que ça, c'est passé devant Skull and Bones?
Ouais, c'est pour dire.
Hein. Ouais, il y a quand même des amateurs de catch. Hein, et chaque année, il ressort. Hein,
la question, c'est est-ce que Skull and Bones est dans le top 50 avant de parler du top 10?
Vous êtes méchant. Attention,
mais cette année, en termes de gaufrage, je pense qu'on va avoir pas mal de trucs. Il y a Skull and Bones, il y a donc là le truc de DC Comics, à mon avis, qui va faire un beau gaufrage.
Et je t'annonce aussi, il y a un les tests sont sortis aujourd'hui, il va faire un beau gaufrage, c'est Alone in the Dark.
Ah oui, effectivement, d'après les tests.
T'étais surpris?
Non, oui, un peu, ouais, un peu quand même, ouais, je m'attendais quand même.
On avait discuté, il me semble, on sentait les chiffres.
Ouais, bon, en tout cas, c'est raté.
Je suis pas convaincu, mais...
Voilà, merci Rowling pour ce sel.
Mais de rien.
Allez, tiens, moi, une petite actu hardware qui n'est pas bonne du tout, qui est un peu inquiétante, hein. Et je veux pas de troll, merci Gab, s'il te plaît. Sony a mis en pause la production des PSVR2.
Oh, c'est étrange.
Dis donc.
Oh. Étonnant.
Ils ont vendu bizarre, tiens.
600 000 unités. Et malheureusement, voilà, ils ont arrêté la fabrication. Ils attendent, ils ont des stocks. qui ne s'écoule pas aussi vite qu'il ne le pensait. Et donc voilà, c'est pas bon aussi du tout pour la réalité virtuelle. Moi, je suis content que Sony ait le courage au moins de s'y lancer, de le faire. C'est quand même eux qui ont proposé du PSVR populaire et à grande échelle.
Ouais,
je vous rappelle que le PSVR 1, ça reste, tais-toi, le PSVR 1, ça reste le casque le plus vendu au monde. Voilà, on espérait encore plus de succès pour PSVR 2, mais malheureusement, c'est pas trop le cas. Gab, vas-y.
Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont mis, ils ont essayé de faire une rétrospective du pourquoi ça ne marche pas, tu vois.
Ils l'ont abandonné. Un peu
non,
comme
mais
la
c'est
PS
un.
Vita,
Je pense que c'est un genre de produit qui est tout à fait relançable, mais il faut. C'est un peu comme Stadia, tu vois.
Ils ont prévu de le relancer d'ailleurs, globalement, d'après les échos qu'on a. Il prévoit de mettre en place une intégration PC avant de relancer la production.
Oui. Ouais, on l'a évoqué la dernière fois, ouais. Mais bon, est-ce que ça va le sauver? Je sais pas.
Je pense
qu'ils ont dû faire
que...
le départ déjà, hein. Ça aurait été mieux.
Ça peut aider effectivement quand même. Un cross PC PS5, ça peut être intéressant. Parce que
l'orientation qu'ils ont pris était pas bonne dès le départ à ce tarif-là. Mais c'était dès le début qu'on a vu le tarif, on a fait mais non. Et si derrière ils se disent pas le problème c'est le tarif, ben ça sert à rien. Ils ont bien fait d'arrêter et puis ils passent à autre chose.
Oui, et puis le tarif et puis y a pas de jeu dessus, hein. Voilà, tout simplement. Hein. Y a pas grand chose.
Oui, mais quoi. Ils vont pas développer le jeu ou un truc qui a été vendu en 50 exemplaires. Tu vois, les gars, ils sont
non,
pas
mais
motivés.
Oui, mais c'est important.
Ah oui, mais c'est sûr, c'est logique.
Bon, à un moment, il faut prendre un risque, il faut investir dans le truc et dire voilà, il faut essayer d'y croire, parce que si tu lances rien dessus, bah, les gens vont pas acheter.
C'est parce que t'as un casque si vert. Ils avaient montré lors de la conférence des actionnaires un mois et demi après la sortie du truc, oui, on a vendu presque 1 million et tout, mais je sais pas d'où ils ont sorti leurs chiffres, c'est ce qu'ils ont dû mettre dans leurs entrepôts.
Mais je sais pas, moi j'ai un chiffre qui serait aux alentours des 600 000.
Oui, mais c'est ce qu'ils avaient sorti aux actionnaires il y a un mois et demi après la sortie. Ça correspondait pas du tout aux chiffres des ventes qu'avaient sorti. Je sais plus quel magazine qui était plutôt autour des.
Oui, en fait, je crois qu'ils avaient dit c'était pas le nombre de casques qu'ils avaient envoyés en magasin, mais pas forcément vendus, non?
Oui, c'est ça. Moi, j'avais tempéré en disant ça, c'est le nombre de casques en magasin écoulés. Voilà, c'est ça qu'ils avaient dit, ouais. Écoulés. Donc, c'est pas vendu, écoulé. Tu vois, à mon avis, les mots sont importants.
Bon, voilà, en tout cas, le PSVR 2, ça sent pas bon et c'est dommage parce que la VR. Si on pouvait faire un truc là-dedans, ça serait quand même chouette. Voilà. Le développer encore plus, le rendre plus populaire. Ouais, pour ma news.
Yes.
Je vais te prendre quelques news, Rolling.
T'as rien dans le fil, toi, donc tu es trop tard.
Mais non, mais t'as pris des news à Missa.
À qui?
À moi. Missa, c'est dans Jar Jar Binks.
Jar Jar Binks, ouais.
C'est le mec. Donc c'est lui, ouais.
C'est dans SNK aussi. Vas-y, je t'en prie.
Bon, bah du coup, je me lance. FF16 arrive bientôt sur PC et figurez-vous qu'une version avec une démo optimisée devrait bientôt pas tarder à arriver sur Steam pour pouvoir l'essayer. Donc, je vous invite à essayer la démo, évidemment, mais je vous invite aussi des fois de vous arrêter à la démo puisque ce sera le meilleur moment du jeu.
C'est clair. tu sais quoi, moi, la démo, je continue, hein, j'avais adoré le jeu, après, il m'était tombé des mains. Je sais pas si je vais pas lui donner une deuxième chance quand même pour retenter la bête.
Ah, bah, je t'avouerais que après avoir joué toujours à FF7 Rebirth, je me dis qu'FF16, c'est bien bas, c'est tombé bien bas.
Ouais,
mais
ouais.
Il y a des bons moments quand même, donc ça vaut le coup de le faire, ces petits moments qui, voilà, fulgurants, ce qu'il peut avoir. Donc voilà, le jeu devrait pas tarder à arriver, on attend encore la date de sortie, mais les développeurs disent que l'optimisation est finalisée, et voilà, la démo arrive d'ici peu.
Moi, je parlais de Capcom, à l'époque où on parle de beaucoup de studios qui virent du salarié à tour de bras. Capcom, eux, ils sont un peu à l'air de ça. Souvenez-vous, déjà, il y a 2 ans, on savait un peu surpris tout le monde, ils avaient augmenté les salaires de tout le monde de 30%. Alors, pas rien, 30%. Alors, ça partait d'assez bas, les salaires médians, mais bon, c'était une très belle hausse. Et là, ils ont annoncé qu'ils avaient monté les salaires de tout le monde en moyenne de 5%. Donc là, c'est une belle chose. Et également, pour recruter les nouveaux talents, ils vont monter le salaire de base, de débutant, de 27%. C'est-à-dire qu'une recrue qui est arrivée jusqu'à maintenant à, je parle en euros, à 1 445 €, une qui arrive maintenant sera à 1 844 €, 400 € de plus. Donc c'est que ça va peut-être faire venir plus de monde. Ça fait quand même 2 fois en 2 ans qu'ils augmentent assez globalement leur salaire. Donc ouais, Capcom, ils ont le vent en poupe, ça marche très bien pour eux, et voilà, eux, ils sont pas à se dire on va se structurer et virer du monde pour être plus compétitif sur le long terme. Non, ils vont recruter plus de monde, ils vont monter les salaires, donc ça, c'est un très beau mouvement. Pardon ?
Ça fait combien de francs tout ça, là, tout ce que tu as dit ?
Combien de francs ? 400 euros, 400 fois 6,55957, et tu l'as en francs. Voilà.
Merci bien.
Je me permets quand même de tempérer le truc, parce que ce serait trop beau si c'était juste ça. Globalement, l'augmentation, c'est que sur les employés japonais. Pour une raison particulière, ouais. C'est qu'au Japon, en fait...
L'évaluation du yen.
Non, c'est surtout qu'en fait, ils ont du mal à recruter face à d'autres entreprises qui sont beaucoup plus compétitives en termes d'attractivité salariale, et surtout pour le recrutement de nouveaux talents. Et notamment Sega. Sega est extrêmement compétitif sur le marché. C'est le plus compétitif à ce niveau-là. Et Capcom, ils ont globalement du mal à recruter face à Sega. Donc ils augmentent pour essayer d'attirer et de conserver davantage leurs talents. Surtout que le marché japonais, c'est assez différent du marché plus occidental où on a toutes les tendances à virer. À renvoyer énormément d'employés chez les Japonais. Bon, globalement, la tendance, ouais. C'est plutôt l'inverse. C'est d'essayer de conserver les talents globalement.
Ah, c'est un truc de dingue. Hein. Et eux, c'est tout l'inverse de notre marché. C'est-à-dire qu'ils se battent pour recruter, alors que nous, on se bat pour pas les garder. Quoi.
Exactement, c'est exactement ça.
Et là, ils se disent qu'il y a des mondes sur le marché, donc c'est le moment d'augmenter les prix pour les recruter, ces gens-là aussi.
Ah, ben bien sûr, mais surtout quand. Comme tu l'as dit, les résultats financiers qui vont bien, ils ont davantage de ressources pour créer plus de jeux, donc plus de jeux.
C'est à dire que Sega, malgré le fait qu'ils aient fait de la merde avec certains de leurs jeux, je pense à leur équipe en Angleterre là, qui fait les Total War Warhammer, qui devait sortir un jeu qui était annulé, qui était en développement depuis X années, ils ont malgré tout pas annoncé de suppression d'emplois dans cette équipe-là. Et de
pareil avec celle de Pharao d'ailleurs, qui a été un fail monumental.
Oui, Pharao qui
a été un fail. Plus que les deux derniers jeux Sonic qui étaient des grandes réussites.
Oui, mais c'est pas les mêmes équipes, tu vois. Là, non, là sur les équipes de Total War, globalement... Mais c'est vrai qu'il a raison, Gab. Les studios japonais en général, ils essaient de conserver un maximum, même hors de leurs studios occidentaux, ils essaient de conserver leurs talents.
Orientaux, tu vois. En tout cas, voilà, c'est au niveau du monde. Tous leurs studios qui sont même externalisés, pour l'instant, ils ne font pas de suppression d'emplois.
Allez, on enchaîne, messieurs. Rolling, à toi. Non, pas toi, tu viens de le faire.
Je peux le refaire si tu veux.
Non, c'est que tu commences une news, toi, Rolling, c'est Gab qui l'a fait pendant 3/4 d'heure. Donc après, je sais plus c'est qui a commencé la news qu'il a faite.
Moi, je commente les news des autres, hein, c'est plus intéressant finalement.
C'est vrai, ça fait moins de boulot à faire. Tiens, mais celle-ci, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je suis très content. Je suis comme un petit fou. Les amoureux de la petite balle jaune vont être heureux puisqu'on a appris. On savait qu'ils étaient en train de travailler dessus, Touquet, sur un nouveau top spin. Ça fait 13 ans qu'on attend un nouveau top spin. On rappelle qu'on s'est arrêté au top spin 4 sur Xbox 360 et PS3. Depuis, plus rien. Je rappelle, c'était quand même la meilleure simulation de tennis. C'était super fun. Enfin voilà, c'était d'une qualité immense. C'était extraordinaire. On a eu plein de jeux de tennis depuis, mais jamais... aucun jeu n'est arrivé à la cheville de Top Spin. Eh bien, ils ont enfin réalisé notre petit rêve de tennisman et tenniswoman, puisque Top Spin, non pas 5, mais Top Spin 2K25, sortira, mesdames et messieurs, quasiment demain. Il va sortir le 26 avril prochain sur malheureusement sur Xbox Series, Xbox... et PS5, voilà, donc on est encore sur l'ancienne génération, voilà. Youpi, mais bon, on ne parlera pas trop des graphismes, on se concentrera plutôt sur le gameplay. que vous dire d'autre sur ce jeu là on a vu des bonnes annonces, on a vu un peu de gameplay. Qu'est-ce que je veux dire d'autre, on aura juste comme nouveauté, on aura un mode académie avec en professeur John McEnroe, rien que ça. Il a poussé ses coups de gueule avec nous. Et il y a un mode carrière, voilà, des tournois, etc. Des anciens joueurs, des nouveaux joueurs, plein de choses. On n'a pas beaucoup d'infos, mais ils vont en sortir au fur et à mesure. En tout cas, c'est préco pour ma part. Voilà.
C'est plus arcade, hein, c'est pas simulation.
Ah non, c'est simulation, hein, Top Spin.
Ah d'accord, donc les Français ne pourront pas gagner encore une fois.
Ah non. Non, malheureusement.
Désolé.
Non, en tout cas, achetez-le, les gars, là, sur PPG. On fera des parties le soir, le week-end, là. On fera des 2 contre 2, 4.
Alors, je vais t'arrêter par la news suivante qui va te dire que tes prochaines soirées PPG vont être bien remplies. puisque Diablo 4 arrive fin mars sur le Xbox Game Pass.
Ah, on en parlait avec Clément il y a deux jours.
Hein?
Tu m'as dit que c'était il fallait farmer comme un cochon, quoi.
Non, j'ai pas dit ça.
Si.
J'ai juste dit que la dernière saison était un peu moins intéressante. Mais ça, c'est question de saison, ça t'empêche pas de faire la partie scénario et profiter un peu du jeu, ce que le jeu t'a à offrir. Franchement, pour toi, si t'as pas envie de te prendre la tête, le jeu est largement suffisant avec ce qu'il y a à t'offrir. Bah,
je pense il que, est possible bon, que j'essaye. Hein.
Je pense que les hardcore gamers se prennent trop la tête.
C'est prévu.
Fin du mois, c'est ça, fin du mois de mars.
28 mars.
Sur le Game Pass.
Ok, moi je vous parlais de Moutarde, du studio La Moutarde. On a le jeu Terra Memoria qui est actuellement accessible en démo sur Steam. C'est un RPG du studio français La Moutarde. D'ailleurs, rendez-vous ce dimanche pour une preview du jeu. Et après, le jeu devait sortir au printemps. C'est le cas, la date vient d'arriver, il sortira le 27 mars. Donc c'est un RPG en tour par tour avec un style graphique très sympa, un système de jeu assez novateur dont on vous parlera plus en profondeur dimanche. La démo, il faut prendre deux bonnes heures pour la faire, ça se fait très bien, c'est très sympa. Donc ce 27 mars, rendez-vous pour Terra Memoria.
Le 3 est mort, rappelez-vous, mais le Summer Game Fest est toujours là. Et on a la date de la grande soirée d'ouverture, ça sera le 7 juin prochain, voilà, à 23h, diffusion sur YouTube. Donc plein de nouvelles choses, de world premiere, on aura droit à tout ça, voilà. Et après, il y aura juste avant, je crois, alors peut-être quelques jours avant, un Xbox Showcase aussi qui est prévu en juin, mais il est annoncé un peu avant. Mais
on a Est-ce pas qu'on verra Kojima exacte.
Ah, surprise.
Switch 2.
Toujours présenté par Jeff Keighley. On vous en parlera un peu plus.
Yeah, ça va être l'époque des conférences tous les soirs. Moi, j'en ai une petite dernière pour le jeu qui avait décroché le statut de meilleur jeu de l'année indépendant. C'est Sea of Stars, le RPG, qui avait eu un très bon accueil. On en a parlé ici plusieurs fois. Nous, on est un peu divisés sur la question, mais il a quand même bien marché. Et là, chose étonnante, c'est que le jeu, on joue à trois protagonistes en même temps quand on combat en tour par tour. Et là, ils amènent une version multijoueur où on pourra jouer en même temps sur une map. On pourra se passer à trois. Ça peut être très sympa, des jeux comme ça, RPG en tour par tour, où on joue ensemble, on parle entre nous, tiens, mets un bouclier, soigne-moi, attaque, machin. Ça peut être super bien, super sympa. Donc je suis assez curieux de voir manette en main ce que ça donne en multi. Mais ça peut être un moyen de remettre dans le jeu, ce que j'ai bien aimé. Pardon. Donc là, la version multijoueur d'un jeu RPG comme ça, ça peut très très bien fonctionner. Donc je vais regarder ça d'assez près.
Il sort en boîte quand, là, sur Switch?
Je sais pas si on a une date. Sea of Stars Switch.
Et bah tu vois, moi, le Terra Memoria, je lui donne... Je vais être plus vigilant vis-à-vis de ce jeu, vu que la démo m'a vraiment emballé. Là où je trouve que Sea of Stars m'a fait un petit peu endormi dans ses mécaniques, trop scolaire, beaucoup trop scolaire.
Ah oui, ça c'est scolaire, ça c'est sûr.
J'ai un manque de folie, de...
Trop répétitif, surtout, Sea of Stars.
Ouais.
J'ai pas du tout accroché avec le jeu.
Bah, pareil, moi, il y a un truc qui... Voilà, où je bloque. Après, je vais peut-être quand même prendre le jeu en physique. Peut-être dans un meilleur mood. Tu sais, c'est un peu comme Tunic. J'ai pas accroché sur le premier run, et puis après, j'ai quand même pris mon pied dessus. Peut-être qu'on passe à côté de quelque chose.
En physique, Dukes, déjà. Il est à 39,99€ sur Switch. En précommande, pardon. Est-ce que j'ai une date de sortie? Non, je l'ai pas, mais on peut le précommander.
le 10 mai.
Le 10 mai. Bien joué.
Le 10 mai en boîte sur Switch. Ouais.
Voilà. Donc, c'est bon, c'est bon, un jeu qui peut être très sympa sur Switch en mode portable quand même. Donc voilà, le 10 mai sur Switch et du mode multi, on n'a pas de date encore, c'est bientôt. Mais ça, on vous en reparlera quand il y aura une date.
Yep, et enfin on terminera la dernière actu un peu rigolote, ça dépend pour qui. Puisque aux États-Unis, à New York, une maman a voulu faire le ménage un petit peu, puisque son fils, qui vivait depuis certaines années chez elle, a décidé de se louer un petit appartement. Mais la maman avait marre de voir ses vieilleries qui encombraient tout son appartement, puisque son fiston, lui, travaillait chez JNL Game depuis des années. Et donc, il avait amassé une certaine collection de jeux vidéo et de consoles. La maman, sans se rendre compte, elle a balancé tout ça. Je trouve ça un petit peu bizarre quand même. Mais bon, elle a balancé... accroche-toi, mon Gab. Elle a balancé des Neo Geo AES, quoi.
Oh, putain.
Sans s'en rendre compte. Faut être fort, quand même.
Non mais ça, ça tu peux pas le savoir, tu vois un truc, c'est moche une Neo Geo AES, faut avouer ce qui est.
Ah c'est clair, ouais.
Mais par contre,
c'est un magnétoscope quoi.
Si tu savais ce qu'il y avait dedans, ça vaut de l'or parce que les composants n'ont jamais été refaits ailleurs et qu'il n'y a aucun moyen de les refaire, c'est, voilà, c'est un désastre.
Et il avait beaucoup de jeux collector dans des jeux sous blister. Ils ont estimé sa collection à 464 000 euros. Voilà, il reste plus rien.
Ah oui.
Donc les boules. maman, elles sont où tous mes cartons là? Ils sont où en fait? Ah mais je les ai mis à la déchetterie. Ah t'imagines le truc? Enfin bon bref, voilà. Voilà pour la petite anecdote. Donc faites bien attention, expliquez bien à vos parents, à votre papa et à votre maman que les cartons qui sont dans le grenier, il faut en prendre soin. On a tous connu ça, j'imagine. Vous, en tant qu'adulte, des jouets que vos parents ont jetés, qui pour eux n'avaient aucune valeur, mais vous, s'ils n'avaient au moins pas une valeur financière, avaient au moins une valeur sentimentale. Moi, je me rappelle tous mes G.I. Joe, enfin, j'ai tout perdu, quoi.
D'ailleurs, pour revenir juste sur la AES, aujourd'hui, ça vaut plus tout le coup d'en acheter, vu le prix que ça coûte et le prix des jeux. Et il faut mieux se retourner vers les MVS, qui sont plus facilement trouvables, beaucoup moins chers, et tellement plus simples, en fait, pour pouvoir jouer à plein de jeux avec une seule borne. Bah, voilà.
Est-ce que vous avez, vous, un jouet ou un jeu que vous n'avez plus, parce que vous l'avez jeté, que vous regrettez maintenant? Des jeux de votre enfance?
Voilà. Non, j'ai toujours tout, moi, donc non.
Ah, ça, c'est bien.
J'ai perdu mes Lucioles Bonux.
Ah putain, j'en avais plein aussi.
Ah les Bonux.
Ah si, il m'en reste une et j'ai donné à ma fille.
Fais gaffe, c'est cancérigène.
Non, c'est quand
et c'est quoi toi, Gab?
Bah, il y a eu ma Mega Drive, évidemment. Je regrette toujours un peu de l'avoir.
Ah, ouais, pareil.
L'Atari ST, évidemment.
J'ai bradé ma Super NES avec tous les jeux en boîte, avec toutes les notices des. Tous les RPG que j'avais là-dessus, putain.
L'Atari ST, ouais. Ça c'est pour moi un désastre. Lors d'un déménagement, je sais pas ce qu'il est devenu. Et puis, ouais, effectivement, toutes les boîtes des vieux jeux. Moi, c'est surtout là-dessus, hein, parce que c'est tout que je garde encore. Et peut-être mes Mighty Claws Senseiya. T'as dû en avoir, Dux, des Mighty Claws Senseiya. Tu sais, c'est les cheveux du Zodiac sur lesquels tu pouvais...
Je calculais, mais alors moi j'en avais. Si, je remarque, j'en avais un ou deux.
Mais j'en recherche ça, moi, j'arrive pas à en trouver, ouais, c'est des prix indécents, c'est trop bien ça.
Je verrais, mais tous les jeux que j'ai joués qui maintenant ça vaut une fortune.
Ah, mais si, j'avais aussi des Megazord Bandai.
J'avais le Power Ranger, là, le Megazord avec l'aigle blanc dans le dos là, que t'accrochais, c'était trop bien.
Moi c'était un Vélociraptor, non, un Vélociraptor. Un tyrannosaure avec un ptérodactyle qui venait au torse, clac. Et t'avais un mammouth qui faisait les bras. Et puis t'avais une sorte de Godzilla qui venait faire un super manteau dessus. Enfin, c'était
trop bien.
Moi, j'avais une collection de personnages Tortue Ninja et Ghostbuster. Bah, j'ai plus rien, quoi. Maintenant, ouais. Ça coûte une blinde.
Enfin, des gosses de riches, on était, c'est pas possible.
C'est clair. C'est comme ça. Un déménagement, et puis voilà. Et puis après.
Un déménagement, et tu perds tout, quoi.
Ouais, un papa qui a dit, tiens, on va faire de la place, et il a tout balancé, quoi. Bref, c'est comme ça. Même pour ça, moi, j'ai des enfants, et je fais très attention. Je conserve des trucs, tu vois. Je mets des trucs
d'un côté.
J'ai un coffre à eux, pour eux, ouais, pour plus tard. Ouais. Ouais.
Bah ouais, c'est comme les cartes Pokémon, faut faire attention à eux pour ça.
Allez, c'est parti, c'était la fin de l'actu en vrac. Tout de suite, c'est le journal sorti des chroniqueurs.
Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
Bon, après ce petit moment de nostalgie, on va aller dans le futur, dans le turfu, comment ils disent? Le
turfu.
Dans le turfu, très proche, dans les moins de 15 jours, d'accord Gab, hein, t'as compris le jeu, hein, pas dans 6 mois où les trucs sont sortis il y a un an.
Rolling, du coup, Metroid Prime 4
Toujours pas.
Toujours pas. Rolling, Aloy.
Shadow Drop, Aloy. Tu penses qu'il va y avoir un Shadow Drop de Metroid Prime 4?
Arrêtez-toi, ça, Rolling. Laisse parler Rolling, il a des choses intéressantes à dire.
Je vais me donner une deuxième chance au jeu, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est Horizon Forbidden West, sorti sur PS5 en février 2022 et qui arrive ce 21 mars sur PC. Pardon.
Enfin, c'est vraiment pas la peine, hein, vraiment.
Ouais, non, mais moi à l'époque, il m'avait bien intrigué et le système de combat était cool. Après, il y avait des
points noirs. Ah, ça, noirs, oui, ça, c'est.
Il y a des points noirs dans l'exploration d'éléments ouverts, je suis d'accord. Mais là, je veux mettre la main dessus dans une version optimisée sur PC. Donc ce 21 mars.
Peut-être que sur PC, il n'y aura pas de bruit. Alors.
Je ne dis pas que je vais accrocher à fond, je ne sais pas, mais je vais réessayer.
Yep.
Je n'ai jamais fait, moi. J'ai fait le 1, j'ai beaucoup aimé. Mais...
Je vais citer deux jeux qui vont sortir là dans les prochains jours. Il va y avoir Rise of the Ronin, que toi, tu n'as pas l'air trop d'y croire, mais moi, je pense que ça va être un excellent jeu.
C'est pas que j'y crois pas. C'est que quand tu me parles de trucs magnifiques, quand tu vois Rise of the Ronin, c'est tout sauf magnifique. Hein.
Oui, après, c'est pas...
Team Ninja, ils sont pas reconnus pour ça non plus. Hein.
C'est mais je trouve ça. Ça se passe dans le côté de Ghost of Tsushima version Tokyo avec une grande ville japonaise et tout. Ça me botte bien, voilà. Hein. Après les graphismes, ça fait pas tout. C'est quand même l'école du gameplay chez eux et
oui,
je pense que ça va être un très bon jeu. Après, et puis il y a Dragon Dogma 2 où je sais pas ce que ça va être. J'ai un peu peur que ça soit pas un si bon jeu que ça. Il y a des trucs qui me mettent un petit peu la puce à l'oreille là ces derniers temps. Entre autres une clé qu'on attend, mais
La clé arrivera demain, Gab. Je viens d'avoir un message de Capcom.
Ah pardon. Mais il y a également d'autres trucs que j'ai vu des previews qui étaient pourtant plutôt positives, mais il y a des choses qui me font tiquer en me disant mais ça c'était pas super terrible dans la première version, est-ce qu'ils l'ont corrigé ou pas, et j'ai pas l'impression quoi. Donc bon, on verra. Je verrai quand j'aurai le jeu et je te dirai.
Yes.
Moi je voulais parler d'un autre jeu. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Les derniers jeux qui étaient sortis sous cette licence étaient plutôt réussis, hein, mais c'était plutôt des RPG. C'est South Park Snow Day qui sortira.
Ah oui.
Il sortira le 20, je crois. Oui, le... Attends. Il sortira le... Il sortira, alors déjà sur nouvelle génération, enfin génération actuelle, on va dire, hein, Xbox Series et PlayStation 5 et Switch et Microsoft.
Et c'est toujours Ubisoft.
Pardon ?
C'est toujours Ubisoft.
THQ Nordic.
C'est THQ Nordic, celui-là.
Ouais.
Ubisoft a plus les droits dessus. Je sais pas pour quelle raison, mais c'est THQ qui les a récupérés.
Ouais, ça sortira le 26 mars. Voilà, alors on quitte l'univers 2D pour aller vers du 3D, on quitte un petit peu le RPG pour une sorte de roguelite, un petit peu, donc vraiment plus action. On pourra y jouer à plusieurs, 1 à 4 joueurs simultanément, dans l'univers toujours aussi barré de South Park, donc pourquoi pas, voilà. South Park Snow Day.
Ok.
Carrément, avec l'humour de South Park, ça peut être très bon.
Pourquoi pas.
Et moi, de mon côté, j'ai deux petits jeux aussi qui arrivent très vite. Le premier, c'est Dragon Dogma 2, parce que j'ai jamais fait le 1 et je suis quand même plutôt curieux de ce que ça a donné, qui sort vendredi 22. Et le second, c'est, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est Diablo 4, le 28 mars sur le Game Pass. J'ai jamais joué à un seul Diablo de ma vie, donc je suis très curieux de ce que ça peut donner. Je connais pas du tout la licence, et c'est dans le Game Pass, je me plains pas.
Moi, ce qui me fait peur avec Dragon Dogma 2, comme j'ai dit, c'est que je pensais qu'on irait plus vers du Monster Hunter World en termes de sensations, et j'ai vraiment l'impression qu'on est resté sur ce qu'était Dragon Dogma 1, un Monster
Diablo
Hunter. un peu cheap, donc non, mais c'est pas du pessimisme.
Ouais, mais...
je crois qu'il y a Exerve effectivement qui a remis une couche dans mes doutes quand j'ai vu le
réessayer.
En même temps, j'ai envie de dire, s'il faisait pareil que Monster Hunter World à un an de Wilds, est-ce que ça perdrait pas un petit peu en intérêt la licence? À mon avis,
c'est pas ça, c'est juste avoir les sensations d'un Monster Hunter dans un vrai RPG.
Ah,
alors, un truc de chasse de monstres.
Après, je t'avoue, j'ai jamais fait le 1, donc je suis curieux de ce que le 2 va donner. Peut-être je vais pas l'acheter, mais je vais regarder du gameplay, je vais essayer de me faire un petit avis là-dessus, par curiosité.
Yes.
Oui, t'as bien raison, faut laisser sa chance. Ok.
Nice. Et moi, pour finir, je vais parler de deux démos. La première, c'est Princess Peach Showtime. Je l'avais parlé ici, là, quand on avait eu un petit peu de mise à jour, où j'avais dit avoir un gros doute sur le jeu vis-à-vis du niveau du gameplay. Perdait dans plein de tenues différentes. J'ai fait la démo et surpris, assez cool. Alors c'est bien amené. En fait, on est dans une scène de toutes les tenues sont des scénettes de théâtre où on joue un rôle différent. Donc le rôle amène la tenue. On a le rôle de l'épéiste et le rôle de la pâtissière dans la démo. On peut tester les deux tenues. Alors c'est adressé à un public assez jeune. C'est quand même, il n'y a pas trop de challenge, assez simple. Par contre, c'est bien foutu, il y a un petit humour sympa, c'est joli, le gameplay fonctionne bien, on se prend au jeu. La démo dure 20-25 minutes, c'est assez court, mais j'avais bien aimé. Donc, je vais regarder le jeu quand il sort, là, ce 22 mars, quand même. Princess Peach Showtime sur Switch. Et le deuxième jeu, c'est un jeu français du studio One Last Studio, fait par Julien Roy. C'est...
Il a fait le jeu tout seul.
Reclaim the Sea. T'as vu passer ça ?
Tu m'as dit de regarder. J'ai fait, ah ouais, on dirait FTL, donc ça ressemblait...
ça ressemble à FTL, où on est dans FTL. Hein. Pour rappel, on est dans l'espace, dans un vaisseau qu'on aménage, et on se balade, on fight d'autres vaisseaux.
Tu passes pour roguelike, tu avances et tu sais pas sur quoi tu vas tomber, puis tu fais des combats spatiales un peu à Star Trek. Ici Spock, veuillez mettre les boucliers. Bah voilà.
Et bien là, c'est pareil avec Captain Sparrow. On est sur un jeu de stratégie roguelike un peu à la pirate, où on recrute des personnes. D'ailleurs, on peut les renommer. Donc moi, j'ai Dukes à la barre, j'ai Gab au canon. C'est assez, ça me fait un peu marrer.
C'est très, très original tout ça, dis-moi.
Ah oui, donc, t'as vu non, après, c'est... Alors, graphiquement, c'est très simple, mais le jeu est sympa. J'ai bien entendu un démo. Alors, on a un bateau à la base, on peut mettre des nouveaux canons, on peut recruter du personnel, des automates, réparer le bateau. On se balade, un coup, on va attaquer les gens, un coup, on va les piller, un coup, on va les aider, un coup, on va chercher un marchand. Et en fait, on avance d'étape en étape sur une petite map, et à chaque étape, il y a des questions. Voulez-vous attaquer? Voulez-vous leur parler? Donc, à chaque fois, on peut prendre des risques ou pas. Et après, on fait monter notre bateau en compétences, on recrute du personnel, on avance de plus en plus loin. Et après, il y a le côté roguelike où, ben, forcément, on peut faire couler son bateau. Mais derrière, ce qui se passe, c'est qu'on peut recommencer avec un autre bateau. Alors, dans la démo, c'est assez rigolo, on n'a pas de dispo, on peut commencer avec une planche, on peut commencer avec un radeau. Donc, c'est difficulté max, et après, on le fait évoluer. On peut mettre des passifs sur son bateau, on peut dire, tiens, mon bateau, il aura un bouclier ou il aura un soin auto, il va enflammer le bateau en face. On peut avoir des canons à longue portée, moyenne portée. Donc, en mettant quelqu'un à la barre, on peut se rapprocher du bateau pour attaquer plus facilement, mais aussi être plus exposé. Donc non, ça fonctionne bien, et c'est fait par une seule personne, comme je rappelle, Julien Roy, du studio One Last Studio, Game Studio. La démo est disponible sur Steam. Le jeu sort courant d'année, on n'a pas encore de date, mais il y a du potentiel, le gameplay est sympa, il y a des bonnes interactions, ça fonctionne pas mal. Ouais, je vais surveiller, et quand on aura la date, je reparlerai ici.
J'ai une petite question. T'as dit qu'on pouvait faire évoluer les bateaux, on est d'accord?
Oui.
Est-ce qu'il y a plus de variétés de bateaux que dans Skull and Bones?
Je ne sais pas combien de Skull and Bones on a.
Il y en a 5 dans Skull and Bones.
J'en ai vu au moins 3, mais après, on peut faire évoluer avec différents canons, des passifs, recruter, mettre une infirmerie. Je peux pas comparer Skull and Bones parce que je ne connais pas. Mais il y a pas mal de choses, de possibilités à avoir, ouais. Je revérifierai le nombre de bateaux. J'ai cru en voir 3. Il y en a un de dispo dans la démo. Après, il y a le radeau. Il y en a un troisième, je crois, qui est possible. Après, il y en a peut-être 4, 5, 10. Je ne sais pas. Je prendrai l'info.
Ceci dit, oui. je voudrais tirer un peu sur l'ambulance encore, mais c'est vrai que Skull and Bones, ça fait un peu chier qu'Ubisoft se plante encore une fois. Parce qu'à terme, ça va porter comme préjudice.
Le problème, c'était juste le temps de développement. Parce que le jeu, quand il l'avait annoncé par rapport au standard de ce moment-là, il était très bon et il est en termes de gameplay et aujourd'hui il est plus adapté, mais tu sortais ça à l'époque de Black Flag ou 5 ans après Black Flag, c'était parfait. C'est juste que le temps de développement a juste miné le jeu.
Ouais, il a pas tort, ouais. T'as pas tort.
Bon, j'ai joué à la bêta, j'y ai joué une dizaine d'heures à la bêta pour te dire, donc globalement le jeu, j'ai pas mal poncé, histoire de me faire un bon avis. Et
sans jeu de mots, il fallait surfer sur la vague de Black Flag, hein, c'est clair. Là maintenant, bon, trop tard quoi.
Ah bah il surfe, hein, mais le problème c'est que là il surfe après la vague.
Surtout, il y a un truc qui s'appelle Sea of Thieves qui est sorti depuis et qui est là quoi.
Saboté ma sortie. Ça s'appelle Reclaim the Sea, hein, pour rappel. Allez essayer le démo, c'est sympathique, ça marche bien.
Bon bah merci.
Merci à vous
messieurs. Merci pour votre participation. Je vous rappelle, chers auditeurs, n'hésitez pas à liker, à partager, un petit mot. Voilà, ça fait très plaisir si vous avez réussi à rester jusqu'à la fin. C'est que vraiment, vous êtes des passionnés. Et on vous remercie. Merci, mon Gab.
De rien.
Merci, Rowling. Merci, Taran, pour tes interventions. Pas de soucis, de Gab. T'inquiète pas. Tu peux prendre l'avion en route, hein, comme on dit. Saute dedans.
On va atterrir, accrocher vos ceintures.
Gros bisous à tous. Merci, chers auditeurs, chères auditrices. Et à très vite sur PPG, Actu PPG.
Bisous. Et on se,
bisous.
On se dit bisous. À dimanche pour la preview de Terra Memoria.
Wouhou, ça marche.
Sur Discord.
Sur Discord, oui, on fait ça.
Bisous, bisous, ciao, ciao.
Bisous, bisous.
Ciao.
Pour une poignée de gamers, le podcast.